Dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, Triangle Rose, le mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire et la Cinémathèque de Saint-Étienne s'associaient pour proposer au public une soirée sous le titre « La persécution des homosexuels sous le Troisième Reich ». Après la projection du documentaire Paragraphe 175, Michel Depeyre, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, donnait une conférence sur le sujet. Radio Ondaine vous propose une captation de cette conférence.
Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de commencer, je tiens à dire à quel titre je parle ce soir sur l'invitation du mémorial et de l'association. D'abord, j'interviens en tant qu'universitaire, travaillant depuis plus de 20 ans sur la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, et membre actif du mémorial. D'autre part, j'interviens en tant que citoyen dans cette semaine contre la discrimination. Et c'est vraiment un combat qui ne concerne pas que telle ou telle période. Il s'agit de quelque chose de tous les jours. Et en tant que citoyen actif, pour reprendre une expression de l'époque révolutionnaire. Et puis, j'interviens également en tant que militant de la cause gay. Voilà, cela étant posé, commençons notre discussion, notre sujet, qui effectivement est un problème lourd à traiter. Car nous sommes ici avec cette question au sein de ce que j'appellerais la concurrence mémorielle. Ce n'est probablement pas un hasard si nous parlons de ce sujet aujourd'hui, en 2021. Nous n'en aurions pas parlé il y a de cela 50 ans. Finalement, c'est, nous le verrons, très récemment que cette cause est citée, traitée, abordée, même si les historiens l'ont déjà traitée antérieurement. Mais toujours par le biais, toujours d'une manière un petit peu limitée. Et c'est vrai qu'il y avait à côté des sujets beaucoup plus importants, d'une certaine façon, comme la Shoah, comme le massacre des Tziganes, comme la déportation des politiques, etc. En fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, nous sommes ici devant un mécanisme qui pourrait être généralisé à d'autres membres de la communauté allemande. Avec l'arrivée des nazis, nous assistons à ce que j'appellerais l'élimination de tous les éléments qui, soit par leur marginalité, soit par leur opposition, peuvent être un obstacle à l'idéologie nazie. C'est ce que les Allemands, enfin les nazis, ont appelé eux-mêmes la Gleichaltung, c'est-à-dire la mise au pas. Ça dit bien ce que ça veut dire. Or, les homosexuels, dans cette période de 1933-1945, sont immédiatement concernés et il va falloir s'interroger sur la raison de cette mise au pas de cette communauté. Alors, pour cela, je pense qu'il faut, d'une part, replacer cette question au sein de la société allemande et de la manière que les Allemands ont d'aborder le thème de l'homosexualité durant les premières décennies du XXe siècle, parce que sinon on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et puis d'autre part, il ne faut pas opposer d'une manière manichéenne les nazis d'un côté et les homosexuels de l'autre. Et nous allons nous trouver ici devant une difficulté qui est très difficile à traiter, qui est celle de l'ambivalence, de l'ambiguïté, des ambiguïtés de l'idéologie nazie elle-même. Donc pour cela, je vous invite à trois moments. Nous allons d'abord essayer de comprendre sur quoi repose cette persécution, car elle repose juridiquement sur un texte. Nous essayerons ensuite de voir en quoi consistait la persécution, les modalités de la persécution. Et puis, nous terminerons sur cette grave question que j'abordais dès le début, qui est celle du souvenir, de la mémoire, de la commémoration. Sur quoi repose cette persécution ? Il faut d'abord peut-être bien se remettre dans un contexte géographique plus large. Nous parlons de la persécution, des persécutions contre les homosexuels. Mais je voudrais quand même signaler que l'Allemagne n'est pas le seul pays à avoir pratiqué ce genre d'exercice. N'oubliez pas que dans le premier pays démocratique en Europe, historiquement, je veux parler du Royaume-Uni, on a quand même mis en prison Oscar Wilde à la fin du XIXe siècle et que l'on a chassé avec alacrité les membres de cette communauté et on a ainsi conduit des dizaines d'individus en prison. Donc, gardons-nous de l'idée que c'est vraiment propre au nazisme. Non, historiquement, c'est antérieur. Et d'autre part, ça ne touche pas que l'Allemagne. Alors, venons-en maintenant à ce corpus juridique sur lequel repose la persécution. Il faut bien voir que les nazis n'ont, comme dans beaucoup de cas, pas inventé grand-chose. Ils ont systématisé, radicalisé une législation qui existait déjà. Tout cela repose sur l'article 175A du Code pénal allemand de 1871. Dans ce texte, il est dit que on peut pourchasser, on peut incriminer toute personne ayant des rapports sexuels, notamment par sodomie, que l'on peut, à partir de là, engager une action au sens judiciaire du terme.
Donc, la débauche contre nature pratiquée entre personnes de sexe masculin ou entre l'humain et l'animal est passible de prison. Elle pourra également entraîner la perte des droits civiques.
Vous avez là le point de départ d'un point de vue juridique. Je vous fais tout de suite remarquer quelque chose qui me semble très important à avoir en mémoire. On s'attaque ici essentiellement à l'homosexualité masculine. Dans l'article 175A, il n'est aucunement question d'homosexualité féminisme. Ça, c'est un point qui, à mon avis, est important parce que cette législation allemande se différencie ainsi de celle d'un autre pays qui, en 1852, peu de temps auparavant donc, a également mis en place une législation anti-homosexuelle. Je veux parler de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Article 129-130 du Code pénal, et où il y a, là, cette fois-ci, une attaque directe contre le lesbianisme. Mais ce n'est pas le cas dans la législation allemande. Alors, le texte de l'article 175 donne lieu à des procès, parfois retentissants, durant l'époque de l'époque dite wilhelmienne, c'est-à-dire de Guillaume II. Je pense au grand procès et à la poursuite d'un des amis intimes de Guillaume II, Philippe von Eulenburg. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure, on va essentiellement s'attaquer aux prostituées. Et on va totalement mettre de côté, épargner les clubs et tout ce qui pourrait être réunion privée. Vraiment, c'est la pratique de la prostitution qui, dans un premier temps, est l'objet principal de l'attention de la police. D'autre part, il faut, comme je le disais, essayer de replacer ce texte dans l'histoire allemande. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne est le pays le plus avancé dans l'affichage dans la revendication de ce que nous appellerions aujourd'hui la cause gay. C'est tout à fait étonnant, mais nous avons les plus vieilles associations d'Europe. Elles sont lancées à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Nous avons le premier film qui défend la cause en 1919. Et on peut dire que dans l'entre-deux-guerres, la ville de Berlin est la capitale européenne des homosexuels. C'est un point très important si on veut comprendre la réaction des milieux conservateurs. Je ne parle pas ici des nazis, hein, je parle des milieux conservateurs au sens politique et religieux du terme. Et puis, à la suite de cela, des milieux, proches du nazisme ou carrément nazis. D'autant plus qu'en 1919 est ouvert à Berlin un institut de sexologie. Alors, vous avez ici, sur la diapositive, le portrait d'un personnage tout à fait important qui s'appelle Magnus Hirschfeld. C'est un médecin et c'est un homme qui ouvre en 1919, dans un ancien palais princier, cet institut où l'on trouve une bibliothèque très très importante, où l'on trouve des possibilités de consultation médicale ou de sexologie. On peut dire que Hirschfeld est l'un des promoteurs de cette science nouvelle. Et on a même, si vous voulez, ce qu'on appellerait aujourd'hui une espèce de zone d'écoute. C'est-à-dire qu'on a ainsi, d'après les témoignages, des centaines de couples berlinois qui viennent consulter Hirschfeld ou ses collaborateurs. Le jour de l'inauguration, Hirschfeld s'écrit « L'Institut est le fils de la Révolution ». Alors, de quelle révolution s'agit-il ? Mais certes, la Révolution de novembre 1918 qui renverse le Reich, enfin l'Empire allemand, c'est vrai, mais aussi de la révolution sexuelle qui est engagée à partir de 1919 et qui se développe pleinement dans cette Allemagne de Weimar. Vous n'avez qu'à lire les ouvrages de littérature comme ceux de Klaus Mann, par exemple, ils sont tout à fait indicateurs de cette libération. Lorsque Gide vient à Berlin, il va visiter l'Institut d'Hirschfeld, même s'il n'est pas du tout d'accord avec les idées d'Hirschfeld. Et Hirschfeld est soutenu par les membres de la SPD, c'est-à-dire du Parti Socialiste Allemand, c'est-à-dire que politiquement, il est donc très connoté. Enfin, à l'intérieur de cet institut, il y a une délégation qui a essayé de faire signer une pétition pour l'abrogation de l'article 175. Autrement dit, cet institut de sexologie cristallise sur lui tout ce qu'il peut y avoir, j'allais dire, de révolutionnaire dans la revendication sexuelle et homosexuelle. Alors maintenant, essayons de voir quelles sont les réactions de ces milieux nazis. Ce sont des réactions qui sont beaucoup plus difficiles à analyser qu'on pourrait l'imaginer au départ. Ne pensons pas à cela comme une espèce de choc entre les nazis d'un côté et Hirschfeld et les homosexuels de l'autre. Ça serait absolument erroné. Nous avons beaucoup d'ambivalence dans l'idéologie nazie. Il y a même des auteurs, je pense à un nommé Buller par exemple, qui est un nazi convaincu et qui écrit des ouvrages où il prône ce que l'on appellerait de l'homo-érotisme. Et nous savons que Ernst Röhm, c'est-à-dire le chef des SA, accepte de demander lui aussi l'abrogation de l'article 175. C'est tout à fait étonnant. Ambiguïté, pourquoi ? Eh bien, regardez un petit peu ces gravures. Elles sont, je trouve, tout à fait indicatives. Quand vous regardez l'art nazi, les statues de Arno Breker, de Joseph Thorak, que constate-t-on ? Elles sont presque exclusivement masculines. Elles mettent l'homme à nu et elles le représentent dans toute la virilité. C'est-à-dire que c'est ici le corps masculin, le corps viril, qui est encouragé, décrit, je dirais même exalté, par opposition. La figure féminine est ravalée à des fonctions subalternes. Et lorsqu'on la voit dans des tableaux de l'art nazi ou dans des statues, eh bien, elle est soit dans des attitudes soumises de femmes au foyer, soit alors dans des postures qui rappellent la procréation. Bon. C'est-à-dire que elle n'est pas du tout, cette femme, valorisée dans cette idéologie. D'ailleurs, si nous allons un petit peu plus loin dans l'analyse de cette manière de voir le monde, de cette Weltanschauung, comme auraient dit les Allemands, eh bien nous voyons que le jeune garçon, entre 10 et 25 ans, n'est jamais mis en contact avec le monde féminin. Les garçons vivent entre eux de 10 à 25 ans. Et on encourage la solidarité entre garçons, on encourage la camaraderie, etc. Et la fille, elle est exclue. Ne soyons donc pas étonnés que nous ayons des ambiguïtés à l'égard de l'homosexualité. D'autant que il y a dans l'entourage d'Hitler des hommes qui se revendiquent ouvertement de l'homosexualité. Ernst Röhm le dit très clairement. Mais ce que les nazis condamnent comme Ernst Röhm, ce sont les efféminés. C'est-à-dire que pour eux, ce que nous pourrions appeler la folle, c'est une dévalorisation de la virilité et de l'homme, et dans ce cas-là, ça, c'est condamnable. Röhm, c'est le militaire, c'est le chef, c'est l'homme. Là, ça peut passer. Même si, on va le voir, ça peut être aussi contesté. Alors, justement, à quel moment y a-t-il basculement ? Eh bien, il y a basculement à partir du 30 juin 1934. Vous savez peut-être que c'est la nuit des longs couteaux, et c'est à partir de ce moment-là que les SA sont, je dirais, relégués dans les institutions nazies, à des fonctions essentiellement d'ailleurs d'assistance, d'aide et de surveillance, et que les SS prennent le dessus avec Himmler. À partir de ce moment-là, nous avons un changement total dans la position du parti nazi à l'égard de la question homosexuelle. J'en veux pour preuve que le 28 juin 1935, c'est-à-dire un an, presque jour pour jour, après l'exécution de Röhm, nous avons une radicalisation de la législation en place, c'est-à-dire de l'article 175A. Cette radicalisation consiste dans le fait suivant. Chaque fois qu'il y a un acte qui peut s'approcher de l'acte sexuel et qui n'est pas simplement une sodomie, par exemple embrasser un autre homme, une fellation, etc. Chaque fois, c'est un acte sexuel répréhensible. Chaque fois, il y a donc une peine qui est appliquée parce qu'il y a eu cet acte. Donc là, il y a un durcissement, il y a un basculement. On va même plus loin, puisque désormais, il y a une véritable politique anti-homosexuelle. Et on n'hésite pas à dire que les SA ont été éliminés parce qu'ils étaient homosexuels. En l'occurrence, c'est un prétexte. C'est complètement faux. On sait très bien que l'élimination des SA, ou tout au moins leur marginalisation dans le système nazi, tient au fait que, eh bien, ils représentent l'aile gauche de la NSDAP et qu'Hitler n'en veut plus. L'armée lui a demandé leur élimination et c'est ce que la nuit des longs couteaux a effectué. Donc, nous avons ici une perception, je trouve, de la question homosexuelle qui doit être totalement relativisée. Dans ce pays où la cause gay était très en avance par rapport au reste de l'Europe, les réactions des milieux conservateurs ont été très fortes. Mais l'ambiguïté idéologique a fait que, finalement, le régime a mis du temps à développer et intensifier leur politique de persécution. Alors maintenant, essayons de voir à quoi correspond cet ensemble de persécutions et ces modalités de persécution. L'homme qui les a le mieux définis, c'est Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, qui, dans un discours du 18 janvier 1937, à Bad Tölz, c'est-à-dire près de Munich, dans un des centres de formation des SS, explique très clairement les motivations. Il s'agit d'éliminer tous les organismes qui ne sont pas favorables à l'expansion de ce qu'il appelle la race aryenne. Les juifs, qui corrompent le sang aryen, et les homosexuels, qui, d'une part, ne procréent pas, et qui, d'autre part, peuvent corrompre moralement la jeunesse allemande, notamment par le biais de déviances efféminées, comme je le disais tout à l'heure. Et la chasse est menée de manière intensive dans toutes les franges de la société, dans toutes les catégories de la société, y compris dans les rangs de l'armée allemande, de la Wehrmacht et des SS, puisque le propre neveu de Himmler est fusillé à Dachau pendant la guerre pour homosexualité. Nous savons que la pratique de cette persécution, au début, se fait de manière très décentralisée, par le biais de dénonciations de voisins qui expliquent au commissariat de police que M. Untel eh bien, reçoit beaucoup de jeunes hommes ou a une vie dissolue. Là encore, ce sont les hommes qui sont essentiellement victimes. Les femmes n'intéressent pas les nazis, c'est très clair. Tout au moins pas sous cette forme. On en reparlera tout à l'heure. Par la suite, on va centraliser la persécution. Et on va le faire d'une manière qui d'ailleurs est tout à fait dans la logique du système nazi policier qui est en train d'être élaboré, par l'Office central de sécurité du Reich, c'est-à-dire le RSHA, où il y a une direction qui est chargée, un bureau, qui est chargé de conduire à l'échelle du Reich la persécution. Tout comme il y a un bureau pour s'occuper de ce qu'on appelle la question juive, tout comme il y en a un pour la répression des témoins de Jéhovah et autres, eh bien, il y a un service pour les homosexuels. L'individu qui est arrêté est questionné. Vous imaginez que ce n'est pas forcément de manière très tendre. Et il peut, à ce moment-là, être envoyé en prison. S'il y a récidive, à ce moment-là, ce n'est plus la prison, c'est le camp de concentration. Pour une durée qui peut être, pendant, jusqu'à la guerre, relativement brève, et l'individu ressort du camp après, entre guillemets, rééducation, et s'il est repris, alors là, ça peut aller encore plus loin. Mais alors, ce qui est tout à fait curieux, et vous allez voir comme le système est extrêmement pervers, comme toujours avec les nazis, le texte de 1935 autorise à démultiplier la sanction. Imaginez que vous soyez arrêté pour fellation. Vous êtes condamné. Bien. Mais ensuite, si le témoin dit qu'il y a eu subversion et qu'il y a eu sodomie, vous serez condamné une deuxième fois, car on estimera qu'il y a eu deux actes répréhensibles. Donc, vous sortez de prison, on peut tout de suite vous dire, ben vous y retournez tout de suite, parce qu'il y a un deuxième acte qui a été perpétré et qui est sanctionné. C'est-à-dire que vous avez des individus qui, comme ça, peuvent passer 2, 3, 4 ans en prison, voire être emprisonné, aller en camp et à la sortie de camp, retourner en prison. C'est un système, vous voyez, d'une très grande perversité. Alors, envisageons justement la question des camps. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les camps de concentration. Certes, c'est un moment très important, mais la persécution est beaucoup plus sournoise et elle est beaucoup plus omniprésente qu'on ne pourrait le comprendre comme cela. Il n'y a pas que le camp de concentration. Quand on regarde les chiffres, et c'est très difficile de les élaborer, de les construire, parce que les statistiques sont rares, on peut considérer que dans la population concentrationnaire, je ne parle pas des camps d'extermination, hein, je m'entends bien, ici je ne parle que des camps de concentration, Dachau, Oranienburg, Sachsenhausen, Buchenwald, etc. Les homosexuels représenteraient, vous remarquerez le conditionnel, 1% des déportés. Mais c'est eux qui, incontestablement, ont la mortalité la plus forte, la plus grande. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ils sont géographiquement, sociologiquement isolés dans les camps. C'est-à-dire qu'ils sont dans des baraques spéciales et ils sont isolés du corps des déportés, du reste des déportés. D'autre part, donc soumis à tous les outrages, toutes les humiliations, tous les crimes des SS. Et on vous a donné quelques exemples tout à l'heure avec cet homme dévoré par les chiens. Bon, l'exemple est connu. Mais d'autre part, ces homosexuels sont toujours envoyés dans les commandos de travail les plus durs. Je vais prendre un exemple. Il y a à Sachsenhausen un commando qu'on appelle le commando des chaussures. Ça paraît très anodin. En fait, c'est un commando disciplinaire. On y envoie les déportés qui ont pu avoir une indiscipline quelconque. Et ils y vont pour une durée limitée de quelques mois, maximum 6 mois. C'est un commando extrêmement dur. Je vais vous expliquer en quoi il consiste. Les homosexuels sont envoyés jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils n'en sortent jamais. Alors, en quoi consiste ce commando ? On met au pied de ces hommes des chaussures de cuir qu'ils doivent tester. 150 km par jour, avec une charge sur le dos, dans des conditions d'alimentation que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que la plupart décèdent. J'ajoute qu'à côté de ces commandos, vous avez des expériences qui sont tentées par les médecins SS. Alors, il y a trois catégories. Il y a d'abord la castration, telle qu'elle est pratiquée notamment à Sachsenhausen. Il faut savoir que si vous êtes condamné à la suite de récidives, vous pouvez demander, pour ne pas aller en camp de concentration, la castration volontaire. Mais elle peut être imposée, et notamment en camp de concentration. Et Sachsenhausen est réputé pour ce genre de pratique. Vous avez d'autre part les expériences hormonales qui sont tentées à Buchenwald. Faire changer le comportement sexuel par des injections d'hormones qui provoquent d'atroces souffrances. Enfin, vous avez ce que l'on peut appeler la rééducation sexuelle. C'est pratiqué à Ravensbrück. C'est un camp féminin, Ravensbrück. C'est-à-dire qu'il y a un petit camp annexe où on va essayer de donner à nouveau à ces hommes le goût des femmes, pour reprendre l'expression de Saint-Simon. C'est-à-dire qu'on va essayer de rééduquer ces hommes en utilisant les pauvres femmes déportées du camp d'à côté. Voilà quelles sont les tentatives de rééducation qui sont tentées par ces SS, et vous pouvez imaginer la plupart des conséquences qui s'en suivent. Dans ces persécutions, je voudrais mettre à part un cas de figure un petit peu particulier. Je ne l'ai pas évoqué dans le paragraphe précédent parce que ce n'est pas de la prison, ce n'est pas de la déportation, mais il faut quand même l'évoquer. À partir de 1940, les hommes qui ont été condamnés en fonction de l'article 175 peuvent être versés dans la Wehrmacht. Et généralement dans les unités les plus exposées, notamment à partir de 1941, sur le front de l'Est. D'autre part, s'il y a des hommes pris pour faits d'homosexualité chez les SS, par exemple, ils vont dans une unité spéciale, dans une division spéciale, bien connue pour ses atrocités. C'est probablement celle qui a le plus beau palmarès. On parle toujours de Das Reich, mais Das Reich, quelque part à côté, font figure d'enfant de cœur. C'est la division d'Erlwanger, qui est une division disciplinaire. Et là, vous y trouvez majoritairement des homosexuels. Ils se sont déchaînés, notamment en Yougoslavie. Donc, voilà, vous avez à peu près la panoplie de cette persécution. J'en passe parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais que vous voyiez, que vous considériez toutes les possibilités d'être brimé, humilié, torturé, castré, exécuté. En revanche, et ça j'aimerais bien que ça soit quand même noté, il n'y a jamais eu chez les SS de projet d'extermination. Dans la conception d'Himmler et de ses collègues, il y a toujours cette idée de la rééducation. Mais je vous signale que c'est toujours une idée qui est aujourd'hui à court. Et nos députés ont voté une loi qui justement interdit ces pratiques. Donc en définitive, les nazis, ici, mettaient un appareil de persécution au service d'une stratégie qui dure encore dans certains États. Enfin, dernier point, la commémoration. Que commémorer? Comment commémorer? Qui commémorer? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en définitive, c'était très difficile d'évaluer le nombre de victimes. Et effectivement, il faut se poser la question de quelles victimes. Les chiffres sont extrêmement variables. Certains parlent de 50 000 victimes. Certains autres peuvent aller jusqu'à plus de 100 000. C'est extrêmement difficile parce que dans les registres des camps de concentration, ce n'est pas toujours indiqué. Il y a des moments où on sait que c'est paragraphe 175. On ne dit pas homosexualité, hein. On dit paragraphe 175. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis il y a le cas des femmes qui pose un grave problème. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, elles ne sont pas visées par la législation nazie. Tout au moins, elles ne sont pas explicitement visées par la législation nazie. Il faut envisager ici deux cas. Le cas du Reich lui-même, de l'Allemagne, si vous voulez. Là, le lesbianisme ne plaît pas. Mais en définitive, ça ne remet pas en cause, comme je le disais tout à l'heure, l'idéal viril allemand. Ça pose problème peut-être parce que la procréation peut être limitée. Mais après tout, ce n'est pas toujours le cas. Donc ça gêne beaucoup moins les nazis. Néanmoins, nous savons qu'il y a des lesbiennes qui sont pourchassées, mais par le biais de la prostitution. Et c'est là où réside la difficulté, c'est que dans les camps, elles peuvent apparaître sous l'étiquette prostituée. Rien ne nous dit qu'elles sont forcément lesbiennes. Deuxième cas, c'est le cas autrichien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les articles 129 et 130 du Code pénal autrichien, 1852, attaquent très clairement... condamne très clairement le fait de lesbianisme. Et de ce point de vue, nous avons des femmes qui sont arrêtées pour cette raison-là en Autriche. Et ce phénomène se poursuit après l'Anschluss de 1938. Mais j'insiste, c'est propre à la législation autrichienne. Justement, c'est une question qui ici se pose à nous. Qu'est-ce que les nazis font dans ces territoires occupés? Eh bien, majoritairement, ils ne diffusent pas la persécution en fonction de l'article 175 dans les territoires qui sont occupés militairement. On pense à la France, on pense à la Belgique. En revanche, ils appliquent l'article 175... dans les territoires annexés, Alsace-Lorraine, comme on disait tout à l'heure, mais aussi territoire des Sudètes ou Autriche, mais là, on reprend l'article 129 et 130. Pas en Pologne. Alors tout ça rend très compliqué le calcul. Si on prend pour le cas français, par exemple, est-ce qu'il faut intégrer les Français persécutés en Alsace-Lorraine? Enfin, je veux dire, en Alsace et Lorraine-Mosellane, oui. Mais à l'époque, même si l'annexion a été illégitime, eh bien, ce n'est pas la France, c'est le Reich. Et il n'y a que quelques cas de poursuite en France pour l'article 175. En revanche, les nazis ont poursuivi des Français sur le territoire du Reich qui contrevenaient à l'article 175. Prisonniers de guerre ou Français qui auraient pu se trouver sur le territoire allemand. Donc vous voyez, tout cela est extrêmement diffus, extrêmement compliqué. Alors, d'autre part, nous avons le problème qui a été un peu envisagé par le film et qui est un petit peu à l'origine de notre conférence de ce soir, c'est la question de l'oubli. Ces persécutions ont été en bonne partie, pendant très longtemps, tues. Rares ont été les récits. Les historiens en parlaient, mais de manière diffuse. Les déportés, jamais. Très rarement. Ou alors, ils disent « Ah oui, il a été exécuté, mais c'était un homosexuel. » Voilà, hop. Mais moi, je ne l'étais pas. Bon. il y avait des pratibos homosexuels dans les camps, mais c'était les homosexuels. Bon. Alors qu'on sait très bien que dans les camps de concentration, c'était extrêmement répandu. Bon. Donc, vous voyez, au fond, il y avait une espèce de honte à évoquer cette question et se revendiquer d'une arrestation pour ce fait. Les triangles roses étaient mal vus. L'un des témoins tout à l'heure dans le film le disait, ils sont au bas de l'échelle. Donc c'est l'oubli. En 2008, ça en reparlerons tout à l'heure, mais on dit même qu'il n'y a absolument plus aucun survivant de ces persécutions. Et c'est à ce moment-là qu'un Allemand qui vit à Mulhouse, Rudolf Braza, eh bien, devant cette assertion, se manifeste et décide de témoigner. Nous sommes en 2008. Et il écrit un ouvrage où il raconte son témoignage. Il meurt en 2011. C'est un texte extrêmement prenant parce qu'il reprend des éléments que l'on a eu dans le film tout à l'heure. Mais c'est un des premiers à avoir vraiment eu voix au chapitre d'une manière aussi officielle. Alors, justement, quel est le déclic qui permet la commémoration? Il est lent, il est long, ce déclic. Imaginez qu'en 1957, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, c'est-à-dire la Cour fédérale, décrète que tous les actes qui ont été, toutes les actions qui ont été engagées par l'Allemagne nazie de 1933-1945 au titre de l'article 175 sont légales. En 1957. Ça signifie que circuler, il n'y a plus rien à voir. L'affaire est réglée. Et que l'homosexualité est condamnée et jugée comme criminelle jusqu'en 1969. L'article 175A étant abrogé en 1994 seulement. Donc vous voyez que s'il peut y avoir une reconnaissance sociale, la reconnaissance juridique est extrêmement tardive. Le Bundestag prend en 2000 un texte dans lequel il abroge la décision de la Cour de 1957. Et en 2003 seulement, il y a un texte qui permet de construire des monuments commémoratifs pour rappeler les morts dans les camps. Vous avez notamment le mémorial de Tiergarten à Berlin, construit en 2008. Et tout à fait dans l'introduction, vous aviez une représentation, on voyait deux hommes qui s'embrassaient. Eh bien, c'est ce que l'on voit à travers un orifice où, qui est à l'intérieur, au centre du mémorial, et qui rappelle ceux qui finalement étaient condamnés jusqu'en 1994. Ce mémorial est donc construit à Berlin, mais il y en a d'autres. Il y en a dans le Brandebourg. Et vous avez en France celui du Struthof, qui, si je ne me trompe pas, date de 1988. Si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez que c'est en définitive une commémoration extrêmement tardive. Alors il est temps de conclure. Finalement, le dispositif de persécution élaboré par les nazis contre les homosexuels n'a rien d'original. Il pourrait être celui que l'on pratique contre d'autres groupes. Et au fond, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui peut être marginal, contrevenir à l'idéologie nazie, doit être ou mis de côté ou éliminé. Mais essayons de sortir de l'exemple nazi. Ce qui, à mon avis, est tout à fait frappant, c'est que la condamnation des homosexuels n'est pas que dans l'Allemagne nazie. On la retrouve dans le régime fasciste italien. On le retrouve en URSS. En 1917, au moment de la révolution bolchevique, les textes qui, comme l'article 175 ou les articles 129 et 130, condamnaient l'homosexualité, ces articles pris par les tsars, ces articles sont abrogés en 1917. Et en 1933, que fait le petit père des peuples, Joseph Staline? Il rétablit la législation anti-homosexuelle. Et la France, me direz-vous? En 1791, la sodomie est décriminalisée. Le code pénal français ne l'a jamais recriminalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, de politique, si vous voulez, de persécution contre les homosexuels. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui explique que dans de nombreux pays qui ont suivi le code pénal Napoléon, le code Napoléon, eh bien, il n'y a pas eu de persécution. En revanche, à partir de 1942, dans le cadre de cette politique d'ordre moral lancée par l'État français, il y a un durcissement, je dirais, à l'égard de la communauté homosexuelle. Alors on pourrait dire, eh bien, régime totalitaire, régime autoritaire, oui, bien sûr. En 1946, au moment du gouvernement provisoire, puis ensuite de l'instauration de la 4e République, les textes de Vichy ne sont pas abrogés. Ils sont même durcis, ils sont même radicalisés. Et comme l'a dit, Jérôme, tout à l'heure, il me semble, ce n'est qu'en 1981 qu'il y a une véritable dépénalisation. Pas avant. En revanche, ce qu'il faut bien avoir, à mon avis, en tête, c'est que c'est certainement dans cette Allemagne nazie que la persécution a été la plus systématique, la plus organisée et la plus terrible. Au fond, il y avait une question juive, pour reprendre l'expression qu'on utilisait à l'époque, eh bien, il y avait aussi, pour les nazis, une question gay. Et là, je reprends le titre du livre de Didier Héribon, publié il y a déjà de cela quelques années. Et cette question gay, nous l'avons dit tout à l'heure, elle n'est probablement pas réglée dans la plupart des États du monde. Je vous remercie de votre attention.